Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête, la poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Notre émission Biston klack de ce soir est consacrée à notre 11e entretien avec Roger Pestouri, soit notre 12e émission. Le thème en sera l'association Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire. Roger a tenu à faire participer à cet entretien quelques-uns des membres responsables de l'association. Je vous propose donc de les entendre s'exprimant devant lui lors de notre entretien. Puis il prendra la parole à son tour dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez donc entendre successivement une présentation de l'association, l'histoire de la rencontre personnelle des membres avec Roger et partant avec l'association, et quelques sujets ou témoignages en rapport avec leur engagement dans cette structure. Je vous propose donc d'écouter successivement Josiane Tourde qui est présidente, Monique Hurier qui est secrétaire, Gilbert Chaussade et Jean de Philippi qui sont membres du bureau. Josiane Tourde, vous faites partie comme présidente de l'association donc, Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire. Il serait peut-être intéressant que vous nous précisiez un petit peu l'historique et les objectifs de cette association, avec, à partir des documents que vous connaissez bien, à la fois les statuts et puis la pratique que vous avez.
Bon, ben, bonjour. Donc le but de notre association, elle a été créée le 15 octobre 1997 parce que les documents sur la résistance étaient trop précieux pour que ça reste comme ça, lettre morte. Et nous avons donc décidé de créer cette association. Et notre association s'est fixée pour but de préserver, enrichir et faire vivre dans son intégralité l'ensemble des documents historiques, politiques, littéraire et culturel rassemblé par Roger Pestouri. Plus que jamais, le devoir de mémoire et de connaissance de cette époque tragique est nécessaire. Voilà pourquoi elle a été créée, cette association, et surtout, elle a été créée parce qu'il y avait Roger Pestouri. Voilà.
Et son historique, bon, ça fait 10 ans, non, que vous allez faire une grande fête pour l'anniversaire.
J'espère, non, c'est vrai. Oui.
Vous avez d'emblée eu tous vos adhérents ou ça a été un petit travail comme ça de constitution?
Non. Alors au départ, c'est quelques personnes qui connaissaient bien Roger qui avons décidé de créer cette association. Donc on a parmi nos connaissances, on a fait un petit peu le tour. Et voilà comment ça s'est créé. Puis petit à petit, on a eu des gens qui sont venus. Parce que non seulement on a fait cela, mais on fait aussi pour faire connaître notre association, des animations.
Par exemple,
on a fait plusieurs salons du livre sur la résistance et la déportation. Et puis surtout, ce qui a abouti, alors là on est très très content, c'est la numérisation des documents sur la résistance et la déportation avec le CHRD.
Les documents de Roger Pestouri.
une partie très très importante.
Et une partie éditoriale aussi, non? Il y a des livres édités par l'association.
Il y a des petits bulletins pour correspondre de ce que l'on fait avec vis-à-vis de nos adhérents. Il y a un livre qui a été édité par sur le fonds Roger Pestouri qui est au CHRD. Et puis on fait souvent des conférences. au long de l'année. Cette année, on a un projet de faire à nouveau notre salon du livre sur la résistance et la déportation, qui ne s'appellera plus comme ça. À la médiathèque de Bron, on travaille beaucoup avec la médiathèque de Bron. Et puis, on va faire aussi une séance cinéma au cinéma Les Alizés sur Bron, sur un film sur la résistance avec un débat. Et voilà. Et notre salon du livre, a toujours, on le fait un samedi, c'est le 4 décembre. Voilà. Qui aura lieu à la médiathèque. Et la veille au soir, on fait toujours une conférence sur des sujets variés. Et cette année, c'est sur la résistance communiste animée par Roger Pestori. Je voulais aussi rajouter que moi, je n'ai pas connu cette période parce que je suis née en 1950. Mais quand on a créé l'association, évidemment, c'est parce qu'il y avait Roger, mais aussi c'était absolument pour ce devoir de mémoire qui est très important. Parce que je suis fille de résistants et belle-fille d'un déporté aussi. Et donc pour moi, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Et ce devoir de mémoire est très, très important. Et notamment, encore une fois, à répéter sur la résistance communiste qui n'est pas racontée comme elle devrait l'être. Qui est, voilà.
Ça reste à faire.
Voilà, ça reste à faire.
Je crois que peut-être pour compléter ce que dit Josiane, moi je voudrais insister, c'est sur la masse des documents que détient Roger. On avait évalué à peu près à 27 000 documents la richesse de son fonds qui était réparti à la fois sur les documents de la résistance, donc qui ont fait l'objet d'un dépôt au CHRD et d'un accord avec le CHRD sur la façon d'utilisation de ce fonds. Et une autre partie qui concerne la vie politique française du XXe siècle, hein, et la troisième partie qui correspond plutôt à tout ce qui est littérature, art, et que dont tout le monde sait que Roger est un fan, si je puis dire, de tout ce qui est peinture, art, lecture, les écrivains, etc., les poètes. Et donc là-dessus, voilà, nous avons normalement à gérer cet ensemble de fonds.
La première partie, c'est au CHRD.
Voilà.
La troisième, je crois qu'elle est toujours là.
Oui.
C'est Roger. La deuxième, elle est aussi
là. Elle est aussi ici.
Ouais, ouais.
Et donc on cherche un lieu de dépôt. Et donc ce lieu de dépôt, nous avons eu un contact par l'intermédiaire de Jean de Filippi, qui est donc au bureau de l'association, avec la mairie de Villeurbanne, qui semble intéressée pour récupérer cette partie du fonds et le mettre en dépôt et à la disposition de la population au centre d'Imogen.
De la mémoire et du patrimoine.
Oui, centre de la mémoire et du patrimoine. Donc des contacts sont en cours aujourd'hui sur ces questions-là.
Et en ce qui concerne votre participation à l'association, vous y êtes venu comment? Et je crois que vous attachez un grand prix à la personnalité de Roger dans cette aventure.
Oui, 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 je pense que les auditeurs ont dû se rendre compte que Roger était un personnage attachant, du moins au niveau de l'écoute. Mais nous connaissons Roger visuellement et aussi avec sa faconde et sa façon de s'exprimer. Mais je crois que Roger, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est sa capacité d'ouverture, c'est un humaniste, c'est quelqu'un, c'est un rassembleur. Et bien sûr, c'est quelqu'un qu'on écouterait sans s'arrêter. Et moi, je l'ai connu là parce que je travaillais aussi dans la sécurité sociale. J'étais militante à la CGT et au Parti communiste. Et donc, Roger m'a sollicité. Mais je crois que, en dehors de ça, je voulais insister sur sa capacité d'ouverture. Et en témoigne la très large participation et d'horizons divers des membres du bureau et du conseil d'administration de l'association.
Je me tourne vers Gilbert Chaussat. Vous êtes membre du bureau de l'association Les Amis de l'Histoire.
Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure-là?
Ben, excessivement simple. Je connais Roger Pestoury depuis une bonne cinquantaine d'années. Et lorsque il a décidé de créer une association pour exploiter ses archives, tout naturellement, j'ai répondu présent et j'ai participé à la réunion inaugurale, disons, de création de l'association, donc en 1997. Bon, je le connais depuis plus de 50 ans, avec tout le respect que j'ai toujours eu pour lui, mais dans la fin des années 80, plus précisément, j'ai repris contact avec lui, parce qu'au moment du procès Barbie, j'ai aidé René Chevalier, que tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent, actuel adjoint au maire de Lyon, fils de fusillé, qui était à l'époque membre de la direction départementale du Parti communiste. Et je l'ai donc aidé à rechercher et à enregistrer, à collectionner les témoignages des résistants communistes encore en vie à cette époque. Ça s'est passé autour de l'année 4, enfin dans la fin des années, après le procès Barbie, et pendant les années qui ont suivi. Donc j'ai repris contact avec Roger, et à ce moment-là, nous sommes descendus dans sa cave, et j'ai pris conscience de l'ampleur de la richesse des documents concernant la résistance, parce que c'est surtout cela qui m'intéressait. Et après la création de l'association, bon, j'ai participé à une série, les démarches, les discussions, réunions ont été très nombreuses, les démarches également, entre autres la ville de Vénissieux, entre autres les archives départementales du Rhône, et tout a échoué jusqu'à arriver au CHRD, comme ça a été déjà dit, et je ne suis pas sûr que Monique l'ait précisé, mais même des amis de l'association ont essayé de numériser elles-mêmes dans l'occurrence, des documents, mais ont abandonné devant l'ampleur de la tâche, parce qu'il s'agit de plusieurs milliers de documents. Voilà pourquoi je me suis investi particulièrement et personnellement. Je suis très heureux parce que j'étais plus sensible à tout ce qui concerne la documentation et les archives sur la résistance, que maintenant c'est pratiquement terminé, en de bonnes mains et prêt à être exploité par des gens compétents. Je me permets de rajouter un petit mot sur quelque chose qui me tient à cœur. C'est que je suis particulièrement, dans mes démarches pour les archives de Roger, et puis aussi par la lecture des manuels scolaires de mes petits-enfants, je suis particulièrement effaré de la méconnaissance et de la déformation de beaucoup de choses qui concernent la résistance communiste. Et entre autres, cette non-vérité répétée de partout, que les communistes ne seraient entrés en résistance seulement après l'attaque de l'URSS par les nazis en juin 1941. Et s'il faut bien reconnaître qu'après la libération, le Parti communiste a un peu exagéré son rôle dans la résistance, voire a passé sous silence et même déformé certains épisodes de cette résistance. Les adversaires politiques de l'époque ont fait bien pire en déformant totalement cette participation communiste dans la résistance. Et comme ils savaient tous les moyens d'édition et tous les moyens de possession des médias, hélas, un grand nombre de ces déformations subsistent, alors qu'il est, je pense à cette entrée en résistance, alors qu'il est parfaitement reconnu aujourd'hui par la quasi-totalité des historiens, que s'il est vrai que la résistance armée contre l'occupant de la part des communistes n'a commencé que dans l'été 1941, à quelques exceptions près, et y compris des sabotages qui avaient eu lieu avant, la propagande communiste intense dans les années 40 et 41 était déjà de la résistance, et anti-nazie, anti-vichiste, et je peux même rajouter pour terminer que en nombre et en quantité de propagande anti-vichiste et anti-nazie, parce que j'ai lu beaucoup d'écrits communistes de l'époque, ils étaient en nombre bien plus importants que ceux des mouvements de résistance d'autre obédience qui se sont créés aussi en 40 et 41, mais qui n'avaient pas d'autre activité que propagande. Et eux ont, sans aucune hésitation, les livres scolaires, et puis même des gens compétents, les professeurs, j'en ai rencontré un certain nombre de professeurs du secondaire. Je peux même dire aussi que c'est le cas des responsables du CHRD, de toute bonne foi, répètent ce qu'on leur a enseigné et sont tout surpris quand on leur présente des documents disant le contraire.
La veille de Noël 1940, pour avoir manqué de respect à un Feldwebel, un jeune ingénieur parisien, Jacques Bonsergent, sera le premier fusillé de la capitale. Aragon écrit alors X français, dont voici les trois premières strophes.
Un nom, comme le sang banal d'une coupure. Un nom trop simple pour qu'on s'en soit souvenu. Un nom dit sans penser, comme un verre d'eau pure. Un nom tout fait qu'on peut donner aux inconnus. Un nom comme le cœur qui bat l'heure qui sonne, la mémoire du temps qu'un ricochet rida. Un nom qui ne ferait se retourner personne, un nom comme au poignet le portent les soldats. Un nom comme on en lit dans le vent des enseignes, sur les actes civils, la pierre des tombeaux. Un nom qui fait échoppe et dont le prénom saigne comme les pieds meurtris d'un enfant en sabots.
Donc Jean de Philippi, vous faites aussi partie du bureau. On a parlé de votre père et vous êtes attaché à honorer sa mémoire.
Eh bien, tout à fait. Mon père a été un résistant de la première heure, puisque le lendemain de l'armistice, avec ses camarades communistes cheminots, ils ont distribué à la population toute la marchandise qui se trouvait dans un train de l'intendance. Ce train était destiné à l'intendance de l'armée française, mais comme il y avait eu l'armistice, ils se sont dit, eh bien, c'est les Boches qui, ce que mon père m'expliquait, c'est les Boches qui vont s'en emparer, on va pas laisser faire ça. Ils ont ouvert les wagons, hein, ils ont distribué, et il y avait de la nourriture, il y avait des couvertures, il y avait enfin tout un tas de choses. Ça a été donc leur premier acte de résistance. Ils étaient cinq. Et ensuite, ils se sont organisés, ils ont distribué des tracts, et Gilbert parlait de la
la résistance armée, c'est vrai, ils avaient qu'un revolver qu'on leur avait donné. C'était une infirmière de Saint-Priest qui leur avait donné un revolver. Et malheureusement, à l'époque, enfin, d'après ce qu'on racontait mon père, bon, ben là, on ne donnait pas. La résistance qui s'organisait faisait en sorte que les communistes ne soient pas armés. Hein. Et pour qu'ils puissent trouver des armes, mon père et tous ses copains, eh bien, ils sont rentrés dans les groupes francs, hein, de l'AS, et en fin 1941, par là. Et là, ils ont eu des armes et ils ont pu faire énormément de sabotage et beaucoup d'actions. Il avait avec donc les groupes francs, il avait fait pas mal d'actions et en particulier, il avait participé avec Lucie Aubrac à la libération donc de son mari et de 14 autres résistants. Et il avait une grande admiration pour cette femme, il disait une femme de tête, une femme d'action, et qui avait participé avec leur groupe déjà à une autre évasion de chef de la résistance. Et il avait énormément de respect pour cette femme qui a été une grande résistante et qui a beaucoup milité après aussi pour rappeler l'esprit de résistance. Alors moi, ce qui m'a fait venir à l'association, mon père et Roger Pestori étaient des complices donc de résistance. Ils étaient aussi tous les deux adhérents du Parti communiste, comme moi-même. Et lorsque moi j'ai été contacté pour faire partie de cette association, j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis rendu compte, comme beaucoup, et tout ça a été déjà évoqué, que la résistance était une partie complètement oubliée dans l'histoire de France. Oubliée et déformée.
Instrumentalisée,
oui. Et avec mon épouse, donc, nous avons adhéré aux amis de la résistance, à la FMD, toutes les associations qui militent pour la mémoire de la résistance et de la déportation. J'ai trouvé donc effectivement dans l'association bien évidemment ce que je recherchais, puis il y avait ce fonds Roger Pestori qui est énorme, qu'il ne devait pas disparaître, qu'il fallait mettre à la disposition des chercheurs. Roger Pestori, bon, on l'a dit, c'est quand même une personnalité qui a le, bon, moi, je trouve qu'il a le sens de l'humain. Il a un esprit très large. Il écoute. Et ses interventions sont toujours marquées du sceau du bon sens. C'est un plaisir de l'écouter quand il nous parle de la résistance, de ce qu'il a vécu. Tout à l'heure, il nous parlait de ses femmes dans la résistance. Ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire de ma belle-mère qui était enceinte et qui transportait des armes et du matériel pour la résistance parce qu'elle était se trouvait au maquis. Et la dernière mission, la mission qu'elle devait, une des missions qu'elle devait faire, c'était transporter un poste émetteur du maquis des Bouloffes à l'état-major de la résistance à Limoges. Et son mari n'a pas voulu qu'elle fasse cette mission parce que c'était trop dangereux, il n'y avait plus de train, etc. C'est lui qui est parti et puis qui n'est pas revenu, voilà.
Thank you.
Vous écoutez Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, l'émission Bistantlac consacrée ce soir à Roger Pestori. Vous avez successivement entendu en ce début d'émission différents membres du bureau de l'association Roger Pestori, les Amis de l'Histoire. Il s'agissait de, successivement, Josiane Tourde, présidente, Monique Curier, secrétaire, Gilbert Chaussade et Jean de Philippi, membres du bureau. Nous vous proposons maintenant de retrouver Roger Pestori qui va évoquer quelques thèmes en liaison avec les objectifs de son association. J'attire votre attention sur le poème « La rose et le réséda » que vous allez entendre dans quelques minutes dans une version inédite avec une musique originale. Il s'agit d'une œuvre réalisée spécialement pour cette émission par Jean-François Rémy qui l'interprète.
Oui, je voudrais en préambule à ce thème que nous allons développer, je voudrais revenir sur une émission, la dixième, je crois, que j'avais appelée la part des femmes dans ma vie. Je voudrais y revenir parce que ça va sans doute illustrer le propos de ce dont nous allons parler en ce moment. Vous avez appris, comme moi, la disparition de Marie Trintignant dans les conditions très douloureuses où elle a été tuée, elle a été pratiquement assassinée. Je voudrais reprendre ici un de ses textes qui viennent d'être publiés. C'est sa mère d'ailleurs, Nadine Trintignant, qui vient de sortir ce volume que j'ai sous les yeux. Et voilà ce que dit Marie Trintignant par rapport aux hommes et par rapport à la femme. Les femmes, dit-elle, sont douées d'une formidable énergie, ce qui doit être tout à fait effrayant pour les hommes. Une femme travaille toute la journée, et le soir elle fait encore le dîner, elle couche les grosses, elle range la maison. L'homme, lui, est épuisé. Il faut qu'il récupère. Les hommes, pour s'affirmer, ont besoin d'une réussite sociale, d'être reconnus dans leur travail. Avec l'enfantement, la femme porte en elle le secret de l'existence, ce qui fait qu'elle est si ancrée dans le réel et en relation avec l'éternité. Chaque être est fragile face à son destin. J'aime ces moments de dépassement de soi où les femmes se battent sur tous les fronts, à la maison, au travail, avec leurs enfants. Et ces périodes de mauvaise conscience où nous nous disons qu'au fond, on ne fait rien de bien en ne donnant qu'un petit bout de soi à chacun. Ce vécu-là des femmes me touche profondément. Je reprends ce texte parce que des souvenirs de la résistance et ça me rappelle surtout Marie, c'est cette gosse qui avait 18 ans, à peine 18 ans, et elle s'était échappée d'un internat de Rouen. J'avais préparé d'ailleurs l'opération pour qu'elle quitte cet internat. Elle a sauté du deuxième étage, nous l'avons récupérée, et puis elle a été mise à ma disposition ensuite comme agent de liaison, comme courrier. Et cette Marie, pour moi, c'était la jeunesse, c'était ce qui exprimait un peu les valeurs pour lesquelles nous luttions. Et puis, il s'est trouvé qu'elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée un peu par notre faute, parce que nous utilisions encore ce qu'on appelait les boîtes aux lettres, là où nous mettions nos messages ou nos codes. Et puis, ces boîtes aux lettres, on nous avait mis en garde qu'elles pouvaient être surveillées, que ça devenait un danger. Bref, elle a été arrêtée dans des conditions où je me sentais un petit peu responsable. Elle a été arrêtée, ça a été la dernière de mes agents de liaison, 7 agents de liaison. J'ai déjà dit que 2 étaient mortes en déportation, une s'est suicidée, et puis cette quatrième, la dernière, cette Marie, elle a été à cette Marie qui reste encore comme un éblouissement dans ma mémoire. Je pense que quand même, la femme, même dans la période de la résistance, c'était pas tout à fait la même chose que l'homme, parce que elle avait des risques plus grands. Elle avait des risques plus grands. Par exemple, cette fille, ce courrier qui a été violée, les femmes qui étaient déportées, souvent les plus jolies, elles étaient récupérées pour servir dans les bordels nazis. Et il y a mon camarade Brunery à Gignac, là-bas, sa femme a été violée dans sa maison sous le regard de son beau-père. Ça, c'est des images qui sont la spécificité de la femme. Il y avait les risques que nous avions, nous. Il y avait la torture, il y avait tout ce que l'on connaît déjà, mais il y avait en plus cela. Et je voulais le dire, je voulais le souligner pour illustrer un peu le propos qui est le nôtre sur cette histoire de la résistance, parce que c'est une vérité, c'est une logique qui fait partie de l'histoire, et il faut, dans notre travail de mémoire que nous le faisons, le rappeler. Et j'indique toujours, je le dis, que toute violence envers les femmes, c'est... On peut appliquer une idéologie qui est l'idéologie du fascisme, l'idéologie du nazisme, et j'ajouterais même que tout homme qui abat une femme est un salaud. Voilà ce que je voulais dire, voilà comment je le ressens, parce que c'est le fond de ma pensée, et c'est un peu la trajectoire qui m'a guidé dans tout mon parcours, avec tout ce que les femmes m'ont apporté dans ma manière de vivre et de m'exprimer.
Ils sont appuyés contre le ciel. Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel, avec toute la vie derrière eux. Ils sont pleins d'étonnement pour leur épaule, qui est un monument d'amour. Ils n'ont pas de recommandations à se faire, parce qu'ils ne se quitteront jamais plus. L'un d'eux pense à un petit village où il allait à l'école. Un autre est assis à sa table et ses amis tiennent ses mains. Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent. Ils sont bien au-dessus de ces hommes qui les regardent mourir. Il y a entre eux la différence du martyr. Parce que le vent est passé là, ils chantent. Et leur seul regret et que ceux qui vont les tuer n'entendent pas le bruit énorme des paroles. Ils sont exacts au rendez-vous. Ils sont même en avance sur les autres. Pourtant, ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres, et que tout est simple, et que la mort, surtout, est une chose simple. Puisque toute liberté se survit.
En octobre 1941, 27 internés du camp de Châteaubriant et 21 détenus de la prison de Nantes sont fusillés par les Allemands. Loïs Masson, moi-même et quelques autres ne sauront réprimer un cri de douleur et d'horreur venu du plus profond du cœur, sombres et sobres, ces vers de Pierre Emmanuel.
Le roulement des roues, les chaos des ténèbres, les tambours qui s'ébrouent, la lune aux mains de neige. 5 heures attachées, reprendront-ils racine ces arbres arrachés au cœur là de nos villes? Paris, Nantes, Bordeaux, nos peines capitales, nos vergers les plus beaux sont greffés par les balles.
Je vais parler de Guy Môquet parce que C'est un personnage d'actualité. Il y a mes camarades du Parti communiste, de la Fédération, qui vont, disons, souligner que cette année, c'est la 70e carte du Parti communiste que je reçois. Et à cette occasion, pour la fête d'Oulin, ils vont faire quelque chose de particulier à mon égard pour me rendre hommage. Et ils m'ont demandé, à cette occasion, de parler de Guy Moquet. Mais je voudrais en parler ici même dans ce que nous disons pour exprimer ce thème de la résistance. Parce que Guy Moquet, bien sûr, j'ai été choqué que Sarkozy fasse ce travail de récupération, mais j'ai été aussi fier qu'on parle de Guy Moquet, parce que si on réfléchit bien, quand Sarkozy a fait cette réflexion pour essayer de sensibiliser l'opinion publique sur cette page d'histoire, il n'a pas été chercher les exemples du milieu qui est le sien, de la classe qui est la sienne. Il a pas parler de Daladier qui a fait Munich, livrant la Tchécoslovaquie aux Hitlériens. Il n'a pas parlé de Pétain ou de toute la collaboration. Il n'a pas parlé de Le Pen et de ses officiers qui torturaient en Algérie, et alors que l'électorat de Le Pen a contribué au succès de Sarkozy. Non, il a été chercher ce qui est la profondeur de l'âme de ce pays. Il a été chercher Guy Moquet. Et je pense que pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qui m'a touché profondément. D'ailleurs, ils ont fait un discours sur Guy Moquet qui m'a beaucoup ému. Les termes étaient bons. Évidemment, c'est pas Sarkozy qui a dit cela, parce qu'il a jamais dit qu'il était communiste, alors que Guy Moquet était le fils d'un député communiste, Prosper Moquet, que je connaissais. Il était député communiste, il avait été élu en 1936, et ça a été une tragédie lorsque il a appris que son fils avait été tué alors que lui était emprisonné. Il était emprisonné d'ailleurs depuis Daladier. C'est Daladier qui l'avait fait mettre en prison lorsque, dès 1939, avant même l'arrivée des Allemands, on faisait la chasse aux communistes. Voilà des choses que je voulais rappeler. Et puis aussi, je voudrais dire que par rapport à Guy Moquet, il y a quelque chose de particulièrement symbolique, parce que il avait l'âge d'un camarade. André Hermite. André Hermite, c'est un camarade qui a été mis à ma disposition lorsque je suis arrivé à Lyon en mars 1943, et il était un peu mon associé dans les initiatives politiques que nous prenions. Il a contribué à la mise en route des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, et ce jeune André Hermite a été arrêté. Je l'avais muté à Saint-Étienne parce que nous voulions faire de Saint-Étienne le lieu d'une nouvelle interrégion. Et là, il a été arrêté, et il a été déporté, et il est mort en déportation. Et à travers Guy Moquet, c'est ce jeune camarade qui reste profondément ancré dans ma mémoire. Son frère a d'ailleurs publié un livre sur André Hermite. J'ai fait la préface de ce livre, mais je tenais à faire ce lien entre mon camarade André Hermite et Guy Moquet. Et puis, je voulais parler aussi, pour en finir sur ce thème, de Gilbert Dru. Parce que Gilbert Dru, c'est le camarade avec qui j'avais pris contact en avril 1943 pour constituer les FUCHEP. Et Gilbert Dru représentait la jeunesse étudiante chrétienne. C'était un grand ami de mon ami Guy Bess, qui a été très connu à la Libération, pour ses travaux scientifiques. Et Gilbert Dru, c'était un personnage qui... Il y avait quelque chose de très fort entre nous, parce que lui, c'était le chrétien, moi, j'étais le communiste, mais dans ses relations avec lui, j'ai retrouvé un peu ma culture chrétienne, j'ai retrouvé un peu ces valeurs qui relèvent de ce christianisme dont je me sens encore indirectement l'héritier. Et Gilbert Dru, ce personnage, a été arrêté, et il il a été fusillé place Bellecour. Et pourquoi je parle de Gilles Berdu en parlant de Guy Môquet? Parce que c'est Aragon qui, dans son poème La Rose et le Résédor, a dit celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, et il avait associé Guy Môquet à Gilles Berdu. Et voilà comment, indirectement, je me suis trouvé dans ce sillage où le nom de Guy Môquet a été évoqué.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, deux sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule, il se mêle à la terre qui démarre. Pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Petite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
Voilà un petit peu les choses, comment je voulais les exprimer, parce que c'est un peu ce qui a servi de réflexion sur cette association que nous avons créée, qui s'appelle l'association Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire. J'avais constaté que nous étions restés longtemps sans parler de la résistance. C'est quelque chose qui c'était pas dans nos préoccupations. C'était presque pour nous une page tournée. Nous parlions. J'ai attendu 25 ans, je crois, à 1969 pour écrire mon premier livre sur la résistance. Les déportés, n'en parlons pas. Les déportés, eux, ils parlaient pas. Ils parlaient pas, parce que quand ils ont retrouvé seulement cette humanité qui est dans notre, ce pays qui est le leur, ils se sont pas reconnus. Ils se sont pas reconnus parce que on les prenait pour des malades, pour des miséreux, et on n'a rien fait pour eux. Il faut se rappeler que quand ils sont rentrés de déportation au mois de juin ou juillet 1945, aucun vin d'honneur n'a été organisé. On les a presque camouflés. On avait presque, je dirais pas honte, mais ils gênaient. Ça gênait parce que c'était la période glorieuse de la libération et il fallait pas parler de ces choses-là. Eh bien, je pense que ce regard sur ce passé, ce regard sur cette période d'absence de ce travail de mémoire pour les valeurs que, pour lesquelles nous avons lutté, tout cela, il fallait que ça se concrétise par quelque chose, par une structure, par une organisation. Et c'est comme ça que est née l'association Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire. Et là, j'ai retrouvé une équipe formidable, mais pour moi, je tiens à leur dire merci, parce que ce qu'elles ont apporté à l'association, c'est ce que je recherchais. Nous faisons beaucoup d'activités. Ces activités seront peut-être développées, reprises par les uns et les autres. Mais je suis très touché et disons, très ému par cette association qui est un peu le profil de la mémoire qui est la mienne, mais le profil aussi de la responsabilité qui est la nôtre. Le profil de ce besoin qu'il y a de passer cette période de deuil que nous avons vécue, parce que tant des nôtres sont tombés, tant des nôtres sont morts. Vous imaginez? Nous sommes partis à 42, 24 de mon équipe ont été ou fusillés, ou guillotinés, ou morts en déportation. Eh bien, il ne faut pas s'en tenir à la période de deuil. Il faut expliquer pourquoi ces patriotes, pourquoi ces gens ont lutté. Pourquoi ils sont morts. Voilà pourquoi cette association tient une si grande place en moi-même. C'est la deuxième association que je crée depuis que j'ai cessé mes activités à la municipalité, mais je pense que c'est celle-là qui me tient le plus à cœur. Et à nouveau, je dis à mes camarades qui sont là, merci à toute l'équipe qui est là. Nous avons des adhérents un peu de partout. Nous en avons de Grenoble, nous en avons de Paris, nous avons Maître Pont qui est avocat au barreau de Paris, qui vient de sortir un livre actuellement sur Son travail de résistant qu'il a fait ici, il a été grièvement blessé, c'est un grand blessé de guerre, et je suis fier que ce personnage fasse partie de cette association. Voilà, et puis pour ce qui me concerne, en prolongement de ce travail, j'ai mes activités aussi à la RAC, l'Association républicaine des anciens combattants, parce que là, c'est un peu le souvenir de mon père. Je dis que j'étais pupille de la nation, que mon père était décédé, gazé de guerre, et la RAC poursuit ce travail de mémoire pour évoquer ces visages qui sont ceux de nos pères ou de nos proches parents. Et puis, je milite aussi, bien sûr, à l'Association des anciens combattants de la Résistance. On m'a fait vice-président. Nous sommes de moins en moins nombreux. Les camarades partent les uns après les autres. Nous restons 4 ou 5 à Bron, avec Souzy, Pestouri, une camarade. Et ça s'effrite de plus en plus. Et bientôt, il ne restera sans doute plus personne. Nous avons perdu notre camarade de Philippi. Et ça, c'est quelque chose qui a été un événement extraordinaire, parce que de Philippi, je pense, il a reçu ce que nous attendions qu'il se fasse, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de monde à ses obsèques, les discours qui ont été prononcés, 6 ou 7 discours, 2 députés, 2 maires qui se sont exprimés, toute cette émotivité qu'il y avait, cette émotion qu'il y avait là, la famille qui était là. Je pense que l'hommage qui a été rendu à mon ami de Philippi, c'est un hommage à toute la Résistance. Et quand je parle des anciens combattants de la Résistance, eh bien, je suis fier, je suis heureux, lorsque je participe à de telles cérémonies, de sentir une telle émotivité, et que l'on se souvient, que l'on n'oublie pas. Et puis je suis aussi aux amis de la Fondation pour la mémoire de la Résistance et de la déportation. Là, c'est une structure plutôt gaulliste, disons que politiquement, par rapport à mon profil politique, puisque tout le monde sait que je suis un militant communiste, là, c'est le monde du gaullisme, peut-être plus à droite, mais je suis bien dans ce monde-là. Je suis bien parce qu'ils m'ont mis président de leur association ici, dans le Rhône, et ils viennent me chercher, ils me ramènent, ils me font faire des discours, ils me présentent les personnalités. Monsieur Pestouri, je dis toujours que je suis communiste, et pourquoi j'ai cette attention, j'ai ce regard pour tous ceux qui pensent pas comme moi, et la richesse qu'il m'apporte dans cette différence qui est la nôtre. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qui me donne la vigueur peut-être de poursuivre, alors que à l'âge qui est le mien, on a beaucoup de morsures physiques qui vous interrogent si le matin vous pourrez sortir de lit. Mais c'est comme ça, la vie est faite de ça et il faut pas se plaindre. Voilà, et puis je suis bien sûr au comité de liaison des anciens combattants. Ils m'ont mis aussi président d'honneur de cette association, et ça me permet aussi de contacter une équipe, de contacter des anciens combattants, des camarades de la Résistance, de la guerre, de toutes les guerres d'ailleurs. Et là, il y a quelque chose de fusionnel. Il y a nos regards qui se croisent aussi, il y a nos pensées qui se retrouvent, qui se regroupent, et je pense que c'est très important. Mais je voulais terminer en parlant de ce que représente l'écriture. L'écriture, c'est le moyen qui permet de garder le témoignage, de garder la mémoire des choses, et que soit conservée cette mémoire des choses. Je dirais pas qu'il faut faire un devoir de mémoire. On ne fait pas un devoir de mémoire. Devoir de mémoire, ça veut dire que c'est par devoir qu'on parle de la Résistance, alors que c'est inclus dans le profil de ce que nous sommes nous-mêmes, dans son prolongement. Mais je pense que l'écriture, c'est quelque chose qui doit nous intéresser, parce qu'il faut laisser une trace orale ou une trace par écrit. Parce que quand nous serons Quand nous serons partis, les uns et les autres, eh bien, il y aura plus de possibilités de s'exprimer. Pour ce qui me concerne, j'ai écrit 3 livres jusqu'ici sur la résistance. Il y en a un 4e, une plaquette, qui va sortir au mois de septembre. Ça s'appelle « Nous nous souvenons, nous nous souvenons ». Alors, je rappelle quelques souvenirs. Il y a 2 textes. On parle surtout de Paul Reynaud, qui est un personnage extraordinaire à Bron, absolument inconnu, qui a fait un travail remarquable dans les groupes combat. On parle de ce qui s'est passé à l'aéroport de Bron, là-bas où on connaît très peu aussi ce qui s'est passé, tous ces déportés qui sont parvenus de déportation. Voilà un peu ce travail personnel. J'ai rédigé peut-être 80 articles sur 72, je crois exactement, sur la résistance, mais j'insiste toujours. Hier encore, j'ai reçu un coup de téléphone, un personnage que je connais pas, qui me connaît. Je suis venu à vos réunions, tout ça. Je me permets de vous appeler. Mon père a 88 ans. Il est dans une maison de repos. Je suis allé le voir. Il a des difficultés pour avoir ses papiers comme ancien résistant. Il faut 2 témoignages. Est-ce que vous pourriez, etc., etc. J'ai dit, moi, je fais pas d'attestation. C'est pas mon travail, ça. C'est pas mon travail. Et vous perdez votre temps, ce papa, d'insister pour avoir ces papiers qui apportent absolument rien du tout, parce qu'on sait très bien comment c'est délivré les attestations. Mais par contre, ce que vous devriez faire avant qu'il parte, c'est que essayer de recueillir son témoignage, essayer de recueillir, vous l'écrire, puisque lui ne le peut pas. Mais comment qu'il a adhéré aux jeunesses communistes dont vous me parlez, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps où il était aux jeunesses communistes, comment expliquer qu'il a été arrêté, qu'il a été déporté, qu'il a fait Buchenwald, c'est tout ça. Il n'y aurait qu'une page ou 2, eh bien, ce serait une richesse extraordinaire et ça vaudrait 100 fois mieux que toutes les attestations ou toutes les cartes d'anciens résistants qu'on peut fabriquer. Voilà un peu le profil des choses tel que je l'entends lorsqu'on parle de l'association Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire, et lorsque l'on évoque ce travail de mémoire qui est le nôtre et qui doit se poursuivre, même après nous, parce que il se trouve que ces associations d'anciens résistants, maintenant, ont créé à côté les Amis de telle association, et les Amis, c'est la jeunesse que nous voulons récupérer pour qu'elle poursuive le combat, l'action qui a été la nôtre dans ces écrits, dans cette histoire, dans ces livres que nous avons publiés. Voilà, je remercie à nouveau mes amis qui sont là autour de moi et je sais qu'ils vont s'exprimer avec toute leur sincérité et la profondeur de leur cœur. Merci.
Ainsi se termine notre 12e émission réalisée à partir du 11e entretien avec Roger Pestouri. Cette émission consacrée au thème de l'association Roger Pestouri, les Amis de l'Histoire. Depuis le début de celle-ci, vous avez pu entendre successivement les plages musicales et poétiques suivantes, un extrait du poème X français de Louis Aragon dit par Laurent Terzieff avec une présentation de Pierre Segers, un extrait de la chanson « Je suis seul ce soir », une version instrumentale d'Aimable, la musique est de Casanova. Et puis c'était le poème de René Guicadou, « Les fusillés de Chateaubriand », mis en musique et dit par Maurice Bénin. Avec ensuite une présentation de Pierre Segers des fusillés de Chateaubriand en octobre 1941. Puis c'était le poème « Le roulement des roues » de Pierre-Emmanuel, dit par Emmanuel Riva. Et ensuite, le poème de Louis Aragon, « La rose et le réséda », mis en musique et interprété par Jean-François Rémy. Je vous rappelle que ce dernier morceau est une mise en musique originale et inédite du poème d'Aragon par Jean-François Rémy, qu'il a réalisé en hommage à Roger Pestouri pour cette émission. Juste avant cette prise de parole, c'était le chant des partisans, un extrait, Druon-Kessel pour les paroles, Anna Marly pour la musique, dans l'interprétation de la chorale populaire de Paris. Enfin, il se doit que nous vous indiquions que l'association publie un périodique à son nom, l'association Roger Pestoury, les Amis de l'Histoire. Il est disponible auprès de l'association à l'adresse suivante, 38 rue Philippe Goy, G-O-Y, 69500 Bron. Notre prochaine émission et dernière de cette série consacrée à Roger Pestoury sera diffusée le 10 décembre 2007. Elle aura pour thème « Les miens ». Nous remercions bien sûr les intervenants de l'émission de ce jour, et Roger Pestoury bien entendu, ainsi que Jean-François Rémy pour sa création musicale. Bonsoir.
Son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est biston claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est biston claque. Qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. Thank you.
son frère et son enfant. Quand un humain s'enflamme, c'est pistant clair. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est pistant clair. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. On s'embrasse, on se bisse,